Vous écoutez RTL.
8h14, Nicolas Sarkozy est resté avec nous. Merci Nicolas Sarkozy. Vous allez répondre aux auditeurs d'RTL. Jean-Michel Apathy est revenu lui aussi dans ce studio. Et la première question vous est posée par Eric qui nous appelle de Metz, dans le département de la Moselle. Bonjour Eric.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur Sarkozy.
Bonjour Eric.
Alors, écoutez, dans l'hypothèse où vous vous représentez, vous êtes réélu président de la République en 2017, quelle serait la toute première mesure, Monsieur Sarkozy, que vous prendriez pour lutter contre le terrorisme islamique?
Oh, Eric, merci de cette question, mais pardon de vous dire que le problème de l'élection de 2017, c'est bien loin, parce que ça laisserait suggérer qu'il faut attendre 2 ans avant de prendre des mesures. Je souhaite que ces mesures que j'appelle de mes voeux soient prises dans un cadre non partisan et dès maintenant. Donc il ne s'agit en aucune façon, Eric, pardon de vous le dire, de penser à ce que pourrait être un programme de sécurité pour 2017, mais de tirer, dans les jours qui viennent, les leçons de ce que nous venons de connaître.
Du coup, soyons très concrets, Eric, dans ce cas-là, vous interroge sur la mesure qui vous paraît la plus importante et que vous pensez nécessaire de prendre aujourd'hui.
Monsieur Calvi, il n'y a pas une mesure magique, pardon, j'aimerais tellement pouvoir vous dire, vous faites ça, vous tournez le tournevis ou vous tournez la porte et puis tout est réglé.
Il y a des ordres de priorité?
Alors, une première priorité, je crois que c'est tout de suite exonérer les services de renseignement et de la sécurité des mesures d'économie absolument indispensables pour toutes les autres administrations. Je vous le dis très simplement, on ne peut pas, compte tenu de la véritable guerre dans laquelle la France est engagée, on ne peut pas prendre le moindre risque. Ça, c'est la première mesure. En termes de matériel, en termes d'hommes. Deuxième élément, il faut écouter les services de sécurité et de police. De quoi ont-ils besoin? Ce sont eux les spécialistes. J'ai eu l'insigne honneur de les diriger pendant 4 ans et d'être président de la République pendant 5 ans. Mais c'est à eux de nous dire aujourd'hui quelles mesures ont-ils besoin en priorité. J'ai pris des exemples avec le programme PNR. Mais j'ai pris des exemples avec le cadre juridique. Mais il y en a un autre que je peux prendre comme exemple. Ces gens qui partent faire le djihad, français, parce qu'il y a un ennemi de l'intérieur, qui partent 6 mois faire le djihad, au Yémen ou ailleurs. Je voudrais dire que, de mon point de vue, quand on va faire le djihad, c'est maintenant, depuis la loi de 2014, un délit. Mais je pense qu'il faut décider que quand on part quelques mois pour apprendre le maniement des armes, pour détruire notre démocratie, pour détruire notre civilisation, on n'a pas à revenir sur le territoire français, y compris lorsqu'on est français. C'est une proposition. Discutons-en. Mais c'est maintenant, tout de suite. On ne peut pas attendre 2017. Je veux dire que dans une situation aussi tragique que celle que nous avons connue...
Vous les privez de leur nationalité?
Non, c'est autre chose. C'est autre chose. On peut en discuter, mais ce n'est pas parce que vous les privez...
Donc on empêche le retour.
Vous voyez, Monsieur Calvi...
Ça a plusieurs exceptions, ce que vous venez de nous dire.
Vous voyez, Monsieur Calvi, que c'est tout à fait différent. Priver de la nationalité quelqu'un, on peut y réfléchir. J'avais dit à l'époque que j'y étais favorable, mais ce n'est pas ça qui renforce la sécurité. C'est une sanction symbolique. En revanche, quelqu'un qui part 6 mois faire le djihad, on n'a pas à le récupérer chez nous, et une fois qu'il a fait sa peine de prison, on l'expulse. Ce qui d'ailleurs veut dire que non seulement il faut renforcer avec ces pays nos structures de renseignement, notre échange de renseignement et notre collaboration policière, mais également discuter avec eux qu'est-ce qu'on fait de ces individus. Enfin, quelqu'un qui est français, qui a une carte d'identité, et qui se comporte de la façon à vouloir détruire la France, nous n'avons pas à considérer qu'il a un droit à rester sur le territoire national.
Deux réponses précises que vous venez de donner à Eric, et maintenant c'est Patrick, qui lui-même est policier municipal, qui souhaitait vous interroger, Nicolas Sarkozy. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du département de Loire-Atlantique. Nicolas Sarkozy vous écoute.
Je suis responsable national et faux police municipale, et je souhaite savoir, compte tenu du tribut qu'on a payé lors de ces drames, si vous prendrez des dispositions en cas de votre retour au pouvoir, de manière à armer systématiquement tous les policiers municipaux.
Bon, encore une fois, je voudrais vous dire que les propositions que je fais, la réflexion que nous menons, n'est pas dans le cadre d'une alternance. Bien, le temps du projet viendra. Mais c'est très important, M. Calvi, de dire ça. Ou alors, on n'a pas compris la gravité et la profondeur des choses. La question n'est pas de savoir qui est mieux, la droite, la gauche, on peut avoir une idée là-dessus. La question, c'est de répondre à la fermeté des Français, pour qu'ils continuent à ne pas avoir peur. Alors,
faut-il armer les polices municipales ? C'est la question qui vous est posée.
Il y a trois choses dans cette affaire. Avant la police municipale, si vous me le permettez, il y a la police nationale. Et on a vu cette image épouvantable, bouleversante, de ce policier à terre, déjà blessé, avec un barbare, un sauvage, quelqu'un qui nie les valeurs de l'humanité, qui lui tire dessus à bout portant. Il y a premièrement la question de l'armement de nos forces de police. Et je pense notamment aux policiers du SPHP, Service de protection des hautes personnalités, qui étaient dans la rédaction de Charlie Hebdo, qui avait son arme de service, bon, moment de le dire, mais l'arme de service, contre un lance-roquette et contre des kalachnikovs, ça n'amène pas grand-chose. Il y a une première réflexion à avoir sur l'armement de nos policiers. Il y a une deuxième réflexion à avoir sur l'armement des policiers municipaux. Je suis pour ma part favorable à leur armement, parce que je pense que la police municipale fait un travail remarquable, complémentaire de la police nationale. Et enfin, troisièmement, excusez-moi d'être didactique, Monsieur Calvi, mais c'est pour essayer d'être précis sur des affaires complexes. Je crois qu'il y a de toute urgence une réflexion à avoir sur le trafic d'armes dans notre pays. Je prends l'exemple de l'individu qui a joué les tours, si mon souvenir est exact, a agressé avec une arme blanche. Il a fait 3 blessés. Le même individu, avec une Kalachnikov, il peut en faire 15. Donc la question du trafic d'armes sur notre territoire, on sait parfaitement d'où elles viennent, en l'occurrence de l'ex-Yougoslavie, du durcissement des mesures en la matière, de la gravité du délit de vente d'armes, de la possession des armes et des stages djihadistes, ce doit, me semble-t-il, être une priorité immédiate de l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité dans notre pays, gouvernement comme opposition.
Beaucoup d'auditeurs souhaitent vous interroger. Je vous demande si vous le voulez bien, Nicolas Sarkozy, une réponse courte. Vous avez parlé de la sanctuarisation des moyens de la police et sur le site RTL.fr, l'un de nos auditeurs vous interrogeait sur la suppression des commissariats de proximité, de la police de proximité. A posteriori, est-ce que vous la regrettez ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut jouer un rôle dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ?
Non, c'est la question, je l'ai dit, enfin, le mot proximité fait bien, mais la question n'est pas celle-ci. La question n'est pas d'avoir des patrouilles de police à 8h30 le matin. La question, c'est de donner des moyens à des forces d'investigation pour protéger nos concitoyens. Bon. Et je pense qu'il y a... Je vais prendre un exemple. En 2003, j'ai créé, dans une polémique invraisemblable, le fichier des empreintes génétiques. Et j'ai reçu des leçons de la terre entière sur cette société épouvantable. Eh bien aujourd'hui, 10 ans après, je peux vous dire une chose, on arrête un violeur sur 2 grâce au fichier des empreintes génétiques. Et je veux que notre auditeur, celui qui vous a posé la question, comprenne que c'est pas tant une question de commissariat de proximité ou de patrouille, mais de renforcement des moyens scientifiques. Je peux prendre la question de l'Internet, là aussi. Quand on voit ce qu'on voit sur Internet, on se dit qu'on a beaucoup à faire, qui n'a rien à voir avec l'ouverture d'un commissariat de proximité. Mais je voudrais dire aussi une autre chose. Quand on pense que dans certains de nos établissements, en 2015, les enseignants n'ont pas réussi à faire la minute de silence, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une faillite de notre système d'éducation, au moins sur le plan des valeurs de la République, de la morale républicaine ? Qu'est-ce qu'on a pu mettre dans la tête, ou plutôt, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans la tête de nos enfants, pour que certains enfants disent « Non, je ne fais pas la minute de silence ».
Et votre réponse à notre auditeur et à cette question qui vous était posée sur Internet nous permet maintenant de faire le lien avec la question qui va vous être posée par Guillaume, qui nous appelle de Nîmes, dans le Gard. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Yves, et bonjour Monsieur Sarkozy.
Bonjour Guillaume.
Alors moi, j'avais une question justement... par rapport à tout ça, parce que vous avez très justement dit que la minute de silence avait été mal respectée dans certains établissements, et effectivement, oui, c'est le témoignage qui remonte beaucoup d'enseignants.
Le président de la FCPE s'en est beaucoup inquiété et explique qu'il va falloir absolument intervenir dans ce cadre-là.
Absolument, donc ça prouve que demain sera encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc vous, en tant que chef, en tant que numéro un de l'opposition aujourd'hui dans ce pays, et pas n'importe lequel, puisque l'exécutif a aucun secret pour vous, est-ce que vous êtes prêt à mettre sur le tapis aujourd'hui le débat sur les limites de l'islam en France, sans bien sûr stigmatiser les musulmans, parce qu'on a très très bien vu qu'ils se désolidarisaient complètement de tout ce qui s'était passé, et c'était très bien de le voir, mais il faut quand même aujourd'hui vraiment poser les vraies questions question et en parler sans détour.
Guillaume, qu'appelez-vous les limites de l'islam en France? Parce que ça va forcément conditionner la réponse que vous fait Nicolas Sarkozy.
Absolument. Alors, les limites de l'islam en France, c'est-à-dire savoir si, par exemple, M. Sarkozy avait fait une très très bonne loi, enfin, à mon avis, sur le port de la burqa en France, en l'interdisant. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là en limitant chaque chose, ou est-ce que ça va être, ou est-ce que on va continuer à avoir trop de politiquement correct qui amène à ce genre de dérive qu'on a pu voir?
Bon, je crois qu'on est au cœur du fil de rasoir. Je crois que c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure.
Oui, hein, pour je ne sais pas si elle est bonne.
Enfin,
on
comprend ce que ça veut dire.
En tout cas, j'ai voulu dire, Guillaume, que devoir de lucidité et en même temps attention. Pourquoi attention? Et c'est peut-être ce qui me sépare d'un certain nombre d'éditorialistes, y compris de cette maison depuis laquelle je m'adresse à vous ce matin. Moi, je crois que ce n'est pas fichu. Je crois que la République, elle peut faire l'intégration. Qu'elle n'a pas à avoir peur parce qu'elle peut réussir. Alors, il y a deux types de mesures, Guillaume. Les mesures conjoncturelles, je viens d'en parler, je n'y reviens pas. On peut les prendre tout de suite dans un cadre non partisan. Et puis il y a les mesures structurelles, immigration, intégration, islam. S'agissant de l'islam, je vous ai indiqué tout à l'heure que je prendrai contact avec les autorités religieuses pour discuter de ça. Puis-je citer un seul exemple, M. Calvi, parce que j'ai un peu, en même temps, ça me gêne de parler de sujets aussi complexes, aussi sensibles, de façon aussi rapide. Et je ne voudrais pas être caricatural. La question des imams. Cette religion, l'islam, il n'y a pas d'hiérarchie. Donc il n'y a pas d'appel. Dans d'autres religions, lorsqu'il y a un problème avec un prêtre, on peut en référer à l'évêque peut en référer au nonce, le nonce peut en référer au pape. Il n'y en a pas. Donc l'une des réflexions que nous pourrions avoir ensemble, c'est de discuter avec les représentants de l'islam de France pour voir de quelle façon l'État et les autorités de la communauté des musulmans de France...
Vous aviez tenté de le faire avec le CFCM.
Non, mais justement, le CFCM existe. Mais pourrait prendre la responsabilité d'habiliter ou de refuser l'habilitation à des imams. C'est une proposition, M. Calvi. J'ai scrupule parce que je veux à la fois répondre précisément à Guillaume et en même temps pas survoler à la vitesse d'un avion en réaction un sujet complexe. Mais voilà, c'est une proposition, Guillaume, parmi d'autres. Et encore une fois, je veux que nous mettions des mots sur des réalités, que nous refusions tout amalgame et que nous évitions ce qui serait le pire pour notre pays, le repli communautaire identitaire et le sentiment d'un certain nombre de nos compatriotes qu'ils sont accusés, ou le sentiment d'une majorité de nos compatriotes qui disent « Ah oui, vous, vous dites pas la vérité, vous n'allez pas au fond de choses. » Mais il faut que vous compreniez, ma responsabilité, Guillaume, n'est pas de la même nature que certains responsables dont leur responsabilité, c'est uniquement de protester. Nous avons la responsabilité de rassembler, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Alors, sur les imams, par exemple, leur formation et leur habilitation, il y a, me semble-t-il, beaucoup qu'il est possible de faire.
Merci Nicolas Sarkozy, merci à Guillaume qui nous a appelé. Nathalie, je crois, souhaite continuer de vous interroger sur la question des imams, ce sera dans un instant. Et j'ai bien compris que, bien qu'occupant sa place habituelle, vous n'étiez pas sur la ligne d'Éric Zemmour, auquel vous avez fait allusion il y a quelques instants. Vous continuez de prendre la parole au 3210, Nicolas Sarkozy est resté avec nous, Jean-Michel Apathy aussi. Et c'est maintenant Nathalie Chaïma qui vous pose une question, Nicolas Sarkozy. Bonjour Nathalie.
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, je suis Nathalie Chaïma, je suis convertie depuis une dizaine d'années à l'islam. Et ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas, monsieur Nicolas Sarkozy, qu'il serait bien d'avoir des imams qui aient été formés en France et ne pas prendre systématiquement des imams qui ont été à l'étranger, enfin qui ont été formés à l'étranger, parce qu'il peut y avoir des dérives sectaires par rapport à nos jeunes?
Oui, enfin, Nathalie, vous avez parfaitement raison, mais il n'y a pas simplement le risque de dérive sectaire, de toute façon. Nous n'avons pas, les musulmans français croyants n'ont pas à devoir dépendre de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou tel pays étranger pour vivre leur culte et leur foi. Donc la question de la formation des imams, question extrêmement complexe, de leur habilitation et de la capacité que nous devons avoir d'expulser tout imam qui tiendrait des propos qui ne soient pas conformes aux valeurs de la République, mais pas de l'expulser dans un délai de 6 mois. Immédiatement, c'est une question centrale dans les discussions que je souhaite avoir avec l'ensemble des autorités religieuses de notre pays.
Sachant qu'un imam, ça ne se forme pas comme ça en un an hein, non plus. Enfin, je veux dire, on comprend que lorsqu'on aborde cette question, on soulève une préparation, des enjeux même temporels importants pour les années à venir, Nicolas Sarkozy.
Oui et non, Yves Calvi, parce que de toute manière, on n'a pas le temps. On ne peut pas répondre à l'inquiétude des Français. Car on a dit tout à l'heure sur votre antenne, et je crois que vous avez eu parfaitement raison, la France n'a pas peur. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas inquiète. Ne confondons pas les choses. C'est une chose de ne pas avoir peur. C'est-à-dire de faire un choix militant, celui d'être debout et de refuser la terreur. C'en est une autre. De ne pas se poser des questions, pas d'être inquiet. On ne peut pas se dire, il faut des années pour former des imams. Les réponses à la tragédie nationale que nous avons connue souhaitent être des réponses apportées dans les semaines qui viennent. Ou alors, ce sursaut républicain, ce sursaut de fraternité républicaine, resservit à quoi ? Ça s'adresse à chacun d'entre nous, responsable politique, responsable médiatique. En tout cas, en ce qui me concerne, avec les responsabilités qui sont les miennes à la tête de l'opposition, je dis ma disponibilité pour que nous participions à une analyse de ce qui s'est passé, pour que les Français sachent tout ce qu'ils doivent savoir, et établir d'ores et déjà, dans un cadre non partisan, les réponses conjoncturelles en termes de sécurité et structurelles sur des sujets tenantes à l'islam, à l'éducation et aussi au problème de l'immigration.
Nathalie Chaïma, je vous pose une question, si vous pouvez m'apporter une réponse rapide. C'est vous-même étant une convertie, vous nous l'avez expliqué hein, au début de votre intervention, vous avez été confrontée à des imams que vous trouviez relevant d'une activité sectaire, pour le coup ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait des imams, et même des jeunes, hein, qui n'avaient pas du tout un dialogue cohérent. Donc moi, je me bats avec ma mosquée pour ce genre de dérive. Je suis responsable. On a tous la responsabilité de s'occuper des jeunes, des jeunes convertis. Mais c'est vrai que moi, oui, j'ai rencontré des gens qui se revendiquent imams, mais qui ne le sont absolument pas.
Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage, courageux de votre part, et qu'il est important d'entendre de la part de musulmans, alors en plus convertis. Nicolas Sarkozy ajoute quelque chose.
Ce que Nathalie dit, il a raison. Quand on voit un certain nombre de choses sur Internet, c'est que la peur doit changer de camp. Que les musulmans modérés, croyants et modérés, doivent pouvoir prendre la parole, affirmer leur position, sans être soumis à une pression intense, celle que nous voyons aujourd'hui, d'une infime minorité peut-être. Et de ce point de vue, c'est à la République laïque, sans remettre en cause la laïcité, de les défendre et de leur prendre et de leur permettre de prendre les positions qui sont les leurs. Il y avait hier, j'étais à la synagogue, à la grande synagogue de la Victoire. Il y avait un certain nombre d'imams, dont le fameux imam de Seine-Saint-Denis, si courageux. Je mesure ce qu'il faut de courage à cet homme pour venir manifester son soutien à la communauté juive, si profondément endeuillés. Mais ce qui est anormal, c'est que ce soit eux qui ont peur. Alors que nous devons les protéger. C'est les modérés qui doivent être protégés. Et ceux qui doivent avoir peur, c'est les extrémistes. C'est eux dont nous ne voulons pas. Et la question centrale, Nathalie, c'est quand même celle-ci. De la même façon qu'il y a plusieurs siècles, les catholiques ont fait une sorte d'agénérmento pour adapter la religion à la République. La question clairement posée aujourd'hui, c'est l'islam de France, pas d'islam en France.
Deux questions très précises pour conclure, si vous le voulez bien, Nicolas Sarkozy. La première m'a surpris, mais en fait, elle a une logique. Les auditeurs qui vous posent la question par SMS attendent votre réponse. Faut-il fouiller les parties communes pour trouver des armes dans les immeubles? C'est intéressant parce que par rapport aux mesures que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui les parties communes des immeubles méritent-elles par exemple de pouvoir être fouillées par la police pour rechercher par exemple des armes?
Bon, c'est le débat dont je parlais il y a un instant. Liberté républicaine, sécurité républicaine. Je suis de ceux qui pensent depuis bien longtemps, M. Calvi, qu'il n'y a pas de liberté sans garantie de la sécurité. Et que les citoyens, le matin, ils se lèvent pas en se disant « Oh mon Dieu, la police va arriver, c'est un problème. » citoyens le matin, ils se disent « Mon Dieu, est-ce que je ne vais pas faire aujourd'hui une mauvaise rencontre ?» Donc si les forces de sécurité ont besoin de cela, dans un certain nombre de quartiers ou de barres d'immeubles, nous devons leur donner les moyens juridiques de faire leur travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on a une sécurité à 100%, c'est parfaitement évident. Mais on doit se donner les moyens d'être plus efficient.
Et toute dernière question, faut-il verrouiller le net ? Et du coup, moi j'ajouterais ma question, c'est est-ce possible ?
Alors d'abord, verrouiller...
Je connais la réponse.
Verrouiller le net, Monsieur Calvi, et vous y connaissez certainement beaucoup plus en la matière que moi... Ce qui n'est pas un compliment, monsieur Calvi. Restez bien les pieds sur terre. Verrouiller le net, l'expression, je ne la reprends pas. Surveiller ce qui s'y passe, oui, je vais, pardon de vous le dire. Le net, c'est un moyen fantastique de mise à disposition de l'information de façon universelle. Mais le net, c'est pas parce que c'est une société virtuelle qu'on doit s'abstenir des principes qui sont les nôtres. Le net, c'est pas fait pour que des pédophiles puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, ou des terroristes puissent expliquer comment on se sert d'une bombe. Donc si la question est, parce qu'on est sur le net, on a le droit de dire et de faire n'importe quoi, y compris lorsqu'on cherche la publicité de manière scandaleuse, comme récemment encore ce matin, ma réponse est non. On doit être sanctionné. La démocratie, c'est pas le droit de faire n'importe quoi. C'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et c'est pas parce qu'on est sur le net qu'on peut s'exonérer des règles que nous avons mis plusieurs siècles à établir pour construire ce qu'on appelle une république ou une démocratie. Donc, oui à la sanction quand il y a des dépassements sur le net, non au verrouillage, d'abord parce que c'est pas possible, et ensuite parce que la démocratie, c'est pas le verrouillage.
Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, répondait donc à vos questions en direct au 32-10. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu passer cette matinée avec nous ce matin sur RTL, et en direct, dans un instant, la météo, Louis Baudin.
Elle est gentille, Monique.
Flattery, parce que vous savez mieux que personne les mots qui vous touchent.
Si vous cherchez des applis vraiment utiles, allez plutôt chez Orange. Avec les applis Mon Réseau et Ma Lifebox, profitez partout de la meilleure connexion. Orange, appli réservé aux clients mobile Orange en métropole, option payante pour